Que se passe-t-il ici au juste ? Poser des questions à des personnes qui écrivent des livres, de toutes les disciplines, sans séparer la fiction de la théorie. L'émission du fictionnaire. Le fictionnaire est le démocrate de la fiction. Des interviews longues de créateurs sur support écrit dans les disciplines des sciences humaines, de Pierre Guyotat à Bruno Latour. Le fictionnaire est cette figure curieuse de tout. Pour le futur, mieux vaut chercher l'hétérodoxie la plus grande. L'émission du fictionnaire.
Bonsoir Karl, ce soir nous irons en Inde et si nous nous faisions hypnotiser par une hypnose régressive en compagnie de l'anthropologue Emmanuel Grimaud pour vérifier si nos vies antérieures étaient bien ajustées à nos vies présentes. Ça c'est le programme de la deuxième partie de l'émission du fictionnaire Métavertigo, vertige de l'humain augmenté par ses vies antérieures. Ça vient de paraître aux éditions La Découverte. C'est signé de l'anthropologue qu'on aime particulièrement bien cette émission, Emmanuel Grimaud. Ça sera à partir de 19h30. Mais avant, grand honneur, une interview avec le sociologue Luc Boltanski, grand nom de la sociologie française, directeur d'études à l'EHESS. Ses recherches qui portent plutôt sur l'influence du capitalisme sur la société et ses principales critiques. Là, il a été interviewé pour son livre de 2012 qui fait tout de même vraiment date. Énigme et complot, une enquête à propos d'enquête. C'est au tournant du XXe siècle que se développe tour à tour 1. Le roman policier dont le cœur est l'enquête. 2. Le roman d'espionnage qui a pour sujet le complot. 3. L'invention par la psychiatrie de la paranoïa. Et 4. La création par la sociologie de formes spécifiques de causalité dite sociale. Et enfin, l'orientation nouvelle de la science politique qui, se saisissant de la problématique de la paranoïa, la déplace du plan psychique au plan social et prend pour objet l'explication des événements historiques par les théories du complot. Luc Boltanski va merveilleusement nous démêler tous ces fils tissés l'un à un et cette merveilleuse concomitance de l'invention du roman policier, de la paranoïa et surtout de la discipline de la sociologie. Ce livre a fait date et il vient de paraître aux éditions Folio Essai. Vous le trouverez donc à un prix fort raisonnable partout en librairie. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu et encore étudié, ce livre est bourré d'idées. Et en plus, il est tout de même d'actualité parce que c'est le complot. Voilà, on va parler de complot. Il en parle merveilleusement bien. Karl, un peu de grande musique du XXe siècle.
Tout à fait, du XXe siècle. Et ce soir, une spéciale compositeur français. Et oui, c'est pas souvent.
Mais non, parce que Honegger, c'est vrai qu'il il est français, il n'est pas américain.
Et oui, il fait partie du groupe des six.
Et oui, avec Poulenc.
Poulenc, Auric et compagnie. Malheureusement pas eu une grande vie, on va dire. Il est mort en 52, donc on aurait pu espérer connaître un peu sa musique à l'aune des années 60, avec toutes les révolutions qu'il y a eu un petit peu. Et là, on est allé pêcher dans son œuvre, en fait, dans ce concerto pour violoncelle. Dirigé par Miloš Sadlo avec l'orchestre philharmonique tchèque, on va trouver en fait quelque chose d'un peu différent, pas dissonant, mais on n'est pas dans le dodécaphonique non plus, mais il y a des constructions un peu différentes.
Et, on est vers la fin de son œuvre.
Je ne pourrais pas dire.
Pardon, c'était la question qu'il fallait pas poser.
Ouais, elle est plutôt piège, mais
désolé.
J'ai des yeux, on va voir. 47.
Bon,
ouais, je crois.
C'est un peu avant qu'il meure.
Achevé en 1929, pardon.
Ah, voilà. Début de l'œuvre.
Oui.
Très bien.
On y va.
Parfait. Émission du fictionnaire, juste après interview de Luc Boltanski.
Thank you.
2, 1, 2. Je suis en compagnie de Luc Boltanski. Merci beaucoup de me recevoir. Nous sommes aux éditions Gallimard. Nous parlons de Énigmes et complots, une enquête à propos d'enquête qui date de 2012 et il vient de paraître en édition de poche. Votre ouvrage, Luc Boltanski, s'intéresse à la représentation de la réalité dans les littératures populaires du roman policier et du roman d'espionnage, mais il s'intéresse aussi, et c'est là sa particularité, son originalité du point de vue de la sociologie, il s'intéresse aussi aux façons nouvelles de problématiser la réalité qui ont accompagné le développement des sciences humaines. Ces dernières, c'est donc discipline des sciences humaines, ont fait de l'enquête leur instrument principal. Et votre livre vous a permis d'interroger la catégorie de l'enquête. À quel type de questions cherche à répondre ce livre?
Oui, bonjour Dominique. À quel type de questions cherche à répondre ce livre? Il cherche à créer une question, parce que c'est une question qu'on ne se pose pas tellement, qui est rentré tellement dans le cela va de soi de notre monde, que ce que nous vivons dans la réalité, que ce que nous voyons, que ce qu'on nous dit, n'est pas la réalité. Qu'il y a deux réalités. Qu'il y a une réalité de surface, qui est souvent optimiste, qui est souvent ordonnée, qui est souvent dans l'espoir, et qui est une illusion complète, qui cache une réalité profonde, qui est une réalité cachée et généralement malfaisante. Et donc le projet du livre, je dis le projet, mais c'est une erreur, c'est un projet qui est venu après coup. Le livre s'est fait un peu tout seul, à partir d'intérêts déjà préexistants. Mais disons, une fois le projet plus ou moins constitué, ça a été de s'interroger sur cette figure et sur la naissance de cette figure, parce que quelque chose naît dans la littérature, un genre, c'est très important les genres, à la fin du 19e siècle, tout début du 20e siècle, qui a quelques antécédents mais très peu. Il y a Edgar Poe évidemment qu'on cite toujours. Il y a un petit peu dans le roman populaire français, mais très peu, et qui va prendre une forme qui va se stabiliser relativement, qui est le roman policier, ou la nouvelle policière. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce genre va devenir, d'abord c'est un genre populaire, qui va devenir le genre, un des genres littéraires principaux, et qui va gagner quasiment l'ensemble de la littérature. Si vous prenez la littérature française contemporaine, on ne pourrait pas dénombrer tous les romans qui prennent la forme d'une enquête familiale, d'une enquête sur un ex ou une ex-conjoint ou conjointe, etc. Et donc, je me suis interrogé sur la naissance de ce genre littéraire qui a été un des lieux de formation de cette figure. Et j'ai mis ça en rapport avec deux autres phénomènes historiques qui sont arrivés à peu près en même temps. L'un qui a été l'invention de la paranoïa dans sa définition moderne par Kraepelin, si je ne me trompe, en 1901. Et d'un autre côté, les débuts de la sociologie systématique, que l'on peut dater environ et appuyer sur des méthodes spécifiques des années 1880-1900. Et donc, je pense qu'on aurait pu ajouter d'autres phénomènes, mais en philosophie, notamment en philosophie du sens, mais je jugeais que mes compétences n'étaient pas suffisantes pour aller jusqu'à la question de Wittgenstein ou du conflit, de la dispute entre Frege et Russell, etc. Mais je pense qu'il aurait pu être possible d'aller jusque-là. Et donc, si vous voulez, La paranoïa est très intéressante parce qu'elle construit comme pathologie exactement un comportement qui est celui du détective, et notamment de Sherlock Holmes, traité par Conan Doyle comme le signe de son génie. Donc, dans le cas du roman policier, le comportement paranoïaque qui va déduire des monceaux de choses d'un brin d'herbe foulé est un signe de génie, et dans le cas de celui qui est étiqueté comme paranoïaque, c'est un signe de folie. Et autre signe, autre phénomène curieux, quand la paranoïa a été connue en France quelques années après, est écrite par Sérieux et Capgras, qui étaient deux psychiatres, je dois dire un peu oubliés, à mon avis, qui ont ressorti des lacaniens, qui ont écrit sur la paranoïa, et ils comparent le paranoïaque à un savant sociologue qui va chercher midi à 14h. Et donc on a là un espèce de nœud de sens qui m'intéressait beaucoup à tenter de clarifier en faisant des résonances, des concordances. Mais je m'étais intéressé depuis longtemps à la paranoïa, je vous dirai peut-être tout à l'heure pourquoi, pour pas garder le micro pendant... Je vous dirai pourquoi je m'étais intéressé énormément à la paranoïa déjà avant.
Alors, avant de parler de la paranoïa et de pourquoi vous y êtes intéressé, j'aimerais qu'on insiste justement sur ce lien, sur ce parallèle qui est l'apparition concomitante du roman policier et du roman d'espionnage, donc fin 19e, début 20e siècle, en Angleterre et en France, donc dans les littératures anglaises et dans les littératures françaises, et ce développement de la sociologie. Parce que vous écrivez, il serait solidaire d'une façon nouvelle de problématiser la réalité et aussi de travailler les contradictions qui l'habitent. Et là, je vous interroge sur qu'est-ce que ça fait sur la réalité. Et la sociologie, on sait bien que c'est cette discipline qui interroge la réalité. Or, elle est concomitante du roman policier et du roman d'espionnage.
Alors, si vous voulez, je pense qu'il y a un genre qui est intéressant. Il y a deux genres qui sont intéressants à mettre en contraste avec le roman policier et le roman d'espionnage. C'est d'une part le roman picaresque. Dans le roman picaresque, vous avez une réalité complètement incertaine. Vous avez des coups de théâtre, des choses qui changent, des gens qui ne sont pas ceux que l'on croyait. Mais au fond, la vision générale est une vision critique de la réalité, de ce qui est présenté comme la réalité, remplacée par le chaos. Donc c'est très proche, évidemment, la forme française et l'imitation française de ce genre, c'est Candide, de Voltaire. Et donc c'est destiné à faire douter de ce que l'on présente comme la réalité, mais pour faire rire, au fond, sur un monde auquel on ne cherche pas à donner un autre sens, c'est juste un chaos. Et l'autre forme intéressante, pour contraster, c'est le roman fantastique. Parce que dans le roman fantastique, vous avez bien des causes inexplicables, des phénomènes inexplicables, mais qui doivent déboucher sur des causes surnaturelles. Et Conan Doyle, comme vous le savez, qui a été l'un des inventeurs de la forme policière, écrivait aussi des histoires fantastiques, mais il n'a jamais mélangé les deux. Et il croyait au fantastique, puisqu'il faisait tourner les tables, mais dans ses histoires policières, c'est toujours la raison, au sens du rationalisme, au sens des sciences, qui est en jeu. Et donc, dans cette forme qui est balisée par ces autres genres, dans cette forme, vous avez bien quelque chose sous la réalité, mais qui ne peut pas être montré, qui est malfaisante. Et donc, vous avez une inquiétude pour savoir qu'est-ce qui est vrai. La vérité, si vous voulez, le modèle le plus classique, c'est le roman policier style Agatha Christie. qui va consister à présenter un certain nombre de personnes comme étant tout à fait dignes de respect et en qui on peut faire de confiance, mais dont chacune peut être un affreux criminel. La vieille dame qui vous fait des bons gâteaux est une empoisonneuse, le pasteur local est un serial killer, etc. Et donc, si vous voulez, cela fait un fusing, si je puis dire, pour reprendre un mot de Barthes, de la réalité qui bouge sans arrêt, et qui crée cette inquiétude spécifique qu'on appelle le suspense, et qui fait l'intérêt. Et évidemment, à la fin, heureusement, la réalité est rétablie par le travail du détective, qui n'est pas le policier, évidemment, du détective, qui s'oppose au policier comme étant la raison à l'état pur par rapport simplement à la brutalité étatique, on va dire. Alors, il y a dans le livre une hypothèse sur la raison pour laquelle cette vision apparaît dans cette période, qui n'est pas, je dis bien que c'est pas une hypothèse, parce que ça ne peut pas être prouvé, c'est une thèse. C'est que cette période est caractérisée en Europe par un renforcement considérable des États et du projet étatique, avec des frontières qui vont se fermer, avec une bureaucratie qui va mettre en fiche la population, ce qui n'était pas du tout le cas au même degré, et avec en échange de cette mise au pas, une promesse qui va se réaliser plus tard dans l'État-providence, mais qui commence à la fin du XIXe siècle avec les assurances, le début de la réflexion sur les assurances sociales, que l'État va assurer le bien-être des populations et surtout va assurer un ordre, c'est-à-dire une prévisibilité du monde qui entoure les personnes. Et que cette prévisibilité va toujours sans arrêt être mise en échec par le capitalisme particulièrement, qui ne reste pas dans les frontières de l'État-nation, qui traverse sans arrêt l'État-nation. D'où le caractère très facilement xénophobe et antisémite de ces débuts de romans policiers et des débuts de cette vision que l'on appellera plus tard complotiste d'un monde en surface bien délimité, bien compréhensible, bien ordonné, mais artificiel, avec en dessous un monde caché et malfaisant.
Alors, je voudrais, Luc Boltanski, qu'on s'attarde justement sur votre thèse, une de vos grandes thèses dans Énigmes et complots, qui est que pour qu'il y ait roman policier, il faut qu'il y ait une réalité stable. Parce que si on a affaire à la littérature fantastique, c'est ce que vous venez de dire, ben forcément il va y avoir une instabilité de la réalité, c'est le propre du fantastique. Mais pour que l'enquête policière prenne, il doit y avoir une stabilité de la réalité, et cela, c'est l'État qui l'offre, et notamment l'État-nation, et c'est ce que vous venez d'expliquer, et j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus. Je vous cite, « C'est à l'État-nation, tel qu'il se développe à la fin du XIXe siècle, que l'on doit le projet d'organiser et d'unifier la réalité, ou, comme le dit aujourd'hui la sociologie, de la construire pour une population sur un territoire. »
Oui, c'est un projet qui apparaît dans toute l'Europe, mais sous des formes différentes. Le travail sur le roman policier et sur le roman d'espionnage, sur lequel je reviendrai après, est particulièrement intéressant pour comparer l'Angleterre et la France. C'est la raison pour laquelle j'ai pris deux buts témoins, si je puis dire. D'une part, et il est le premier, Conan Doyle, les affaires de Sherlock Holmes, et d'autre part, Siménon et les affaires de Maigret, qui donnent toutes les deux une vision complètement différente de la société dans ses rapports avec le pouvoir politique et avec l'État. L'Angleterre de Conan Doyle, c'est un pays composé en classes sociales qui sont traités quasiment comme des espèces naturelles, mais c'est un pays, si je puis dire, unifié par le libéralisme, où vous n'avez pas de tension forte entre l'aristocratie et la bourgeoisie, puisque la révolution a eu lieu beaucoup plus tôt qu'en France et de façon beaucoup plus pacifique. Et vous avez un projet libéral dans lequel des personnes sont rationnelles quand elles évaluent correctement leurs chances de réussite et leurs capacités. Et où le méchant, c'est-à-dire Moriarty, est quelqu'un de classe inférieure, c'est un enfant illégitime, d'habitude le méchant, et qui est suprêmement intelligent, mais qui n'est pas raisonnable quant à ses chances de réussir un projet dans la vie, et que du même coup se dirige vers un des projets maléfiques. Dans l'univers de Sherlock Holmes, vous avez un dédoublement qui va être classique dans le roman policier, entre le policier qui représente l'État et celui qui dénoue, et le détective qui n'est pas un professionnel et qui dénoue les enquêtes. Le policier est donc un brave homme mais de classe inférieure et ne comprend rien et qui s'oppose à Sherlock Holmes qui lui est suprêmement intelligent. Mais moins que son frère, comme vous savez, c'est le frère de Sherlock Holmes qui est le vrai héros du livre, qui lui est le chef des services secrets anglais. Et donc le travail de Sherlock Holmes, c'est avant tout d'empêcher que la presse, les médias sont très importants en fait en filigrane, d'empêcher que les mauvaises affaires que Sherlock Holmes doit traiter aillent dans la presse, parce qu'elles se situent presque toujours dans la bonne société, et généralement par la faute d'une femme, pas généralement, assez souvent par la faute d'une femme d'origine étrangère. Les pires étant, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, les Sud-Américaines, évidemment, qui sont présentées comme volcaniques et extrêmement dangereuses. Et donc, c'est un univers, on peut dire, nationaliste, évidemment, où les frontières ne sont jamais suffisamment fermées, et du même coup, où l'effort pour assurer une sécurité libérale fondée sur la rationalité de chaque citoyen ne parvient jamais à empêcher des histoires épouvantables. Maigret, c'est complètement différent. Maigret, c'est, si je puis dire, le dans l'esprit de la sociologie française. C'est un pays qui n'est pas unifié, c'est un pays qui est toujours au bord de la guerre civile de classe, où chacun est déterminé par son milieu. Ces milieux sont comme une mosaïque de milieux différents, ce qui fait que Maigret, quand chaque fois qu'il faut dénouer une énigme, il commence par se noyer dans un certain milieu. Ça peut être les petits commerçants, ça peut être les bateliers, ça peut être etc. Et où vous avez bien un dédoublement, mais qui est un dédoublement dans la personne même de Maigret, qui est à la fois le détective qui arrive à dénouer l'enquête et un homme qui peut se mettre à la place de l'inculpé qu'il est en train de casser la gueule. Ce qui est assez étrange et assez pervers, d'une certaine façon. Parce que... Et les gens que Maigret n'aime pas du tout, ce sont les juges, parce qu'il considère que les juges sont de catégorie sociale supérieure. Lui, il est d'origine populaire, qu'ils ne comprennent pas le peuple, et lui, au fond, arrive à traquer les coupables d'origine populaire parce qu'il est lui-même un enfant du peuple. Et il représente l'État, c'est-à-dire l'administration. Il n'y a pas du tout cette tension chez Sherlock Holmes entre l'État politique et l'administration de l'État. L'administration compte assez peu dans les histoires de Sherlock Holmes. Tandis que pour Maigret, c'est dans les histoires de Siménon, C'est une tension très importante. La politique est toujours mauvaise, les politiciens sont toujours mauvais, mais ce qui est stable, ce qui est solide, c'est l'État. C'est-à-dire, c'est l'administration. Ce que des enquêtes sociologiques, notamment historiques, et notamment sur la période 1940-1945, montrent tout à fait. Si vous voulez, que l'administration, dans une certaine mesure, ne s'est pas aperçue du changement politique qui se passait, à condition qu'elle n'empêche pas l'administration de faire correctement son travail quotidien. Et donc, si vous voulez, c'est un bon analyseur, si je puis dire, pour comprendre les formes que prennent. Il aurait fallu le faire aussi pour l'Allemagne, et d'ailleurs pour la Russie, puisqu'il y a eu... Mais je ne sais pas l'allemand, et donc je n'avais pas la possibilité de le faire.
On pourrait vous reprocher, Luc Boltanski, d'ailleurs, vous faites vous-même le reproche dans le livre, que cette bizarrerie d'interroger la catégorie de la réalité en vous servant d'un corpus documentaire constitué d'œuvres de fiction. Et vous aurez la réponse dès ce soir sur le site de l'émission du Fictionnaire, l'interview durant 1h10 avec le grand sociologue Luc Boltanski. Nous allons maintenant directement avoir un morceau de musique. Allez, en Inde, avec l'anthropologue Emmanuel Grimaud pour son nouveau livre « Métavertigo, vertige de l'humain augmenté par ses vies antérieures ». On va donc être en compagnie de Trupti Jayan, une hypnotiseuse indienne, et avec elle, on va vivre des hypnoses régressives, c'est-à-dire une hypnothérapie très populaire en Inde, et on va aller vers des voyages mentaux des différents patients à l'exploration de leur vie antérieure. Car ça, c'est merveilleux.
C'est un nom de groupe, ça, hypnose agressive, non ?
Ah, régressive, hypnose régressive, ouais.
Pardon, j'avais compris, agressive.
Ouais, bah, ça dépend aussi comment tu la vis.
Je commençais à avoir peur, là. Non, c'est pas rassurant, quand même. Tu payerais pour une hypnose agressive ?
Ouais, ou régressive.
Là, ça me rassure.
Ouais, mais en même temps, ça serait un bon nom de groupe, quoi. Hypnose agressive,
ah,
ouais.
Je pense, hein, on a
ça serait un
chose.
Concept, mais je crois qu'il n'est pas encore formé, celui-ci.
Mais non, on en a plein des idées de groupe pas formés. On passe maintenant à Maurice Ohana, qui est pas forcément non plus très diffusé dans cette émission. Dommage, hein, j'ai pas de morceaux qui parleraient de l'Inde. Là, on va plutôt s'intéresser à Phèdre, au syllabaire pour Phèdre, un opéra de chambre donc de Ohana écrit en 66. Donc là, il a pu se libérer peut-être de modes d'écriture anciens et c'est très moderne et pas pour autant très dissonant. Je vais vous laisser juger, peut-être. Qu'est-ce que t'en penses ?
Ah oui, moi, Maurice Ohana, c'est bien ça. Et puis, il est mort après, bien après Honegger, donc il a pu explorer et expérimenter. Yo !
Là.
Thank you. m'a échappé comme un oiseau de ma main entr'ouverte. Ne me déserte pas. La terre est une maison vide maintenant. J'irai où vont les morts. J'habiterai ta nuit.
Je suis en compagnie d'Emmanuel Grimaud. Merci beaucoup de me recevoir chez toi à Paris. Nous parlons de ton dernier ouvrage paru à la Découverte dans cette très belle collection Terrain philosophique. Ton livre s'appelle Métavertigo, vertige de l'humain augmenté par ses vies antérieures. Il commence par un préambule qui se passe en 2017 à Dharamsala, en Inde, et il est sur les enjeux contemporains de la métempsychose, c'est-à-dire la spéculation entre les brahmanes et les bouddhistes, et désormais avec les penseurs du transhumanisme. C'est donc le préambule de ton livre qui s'appelle « Le rapt du samsara par les ingénieurs de l'immortalité ». Peux-tu nous expliquer ?
Oui, alors c'est le préambule, effectivement, c'est le point de départ. C'est une aventure qui a commencé il y a quelques années et dont je n'ai pas su quoi faire au départ. Mais je me suis retrouvé presque un peu par hasard à Dharamsala, donc qui est un haut lieu du bouddhisme, c'est là où réside le Dalai Lama. Et il y avait un colloque sur la réincarnation qui était organisé par des ingénieurs de la Silicon Valley, et donc par un institut qui s'appelle le Mind and Life Institute, qui avait été créé par Francesco Varela et le Dalai Lama, pour permettre aux ingénieurs de la Silicon Valley de discuter et de rencontrer des moines bouddhistes. Et là, l'enjeu, c'était alors, bon, les affaires de réincarnation. Et il y a eu des... Alors, en fait, c'était très curieux parce qu'il y avait des ingénieurs qui étaient là et qui défendaient l'idée que Internet, le métavers, c'était les premières étapes d'une transmigration électronique des personnes. Et alors, donc, il soumettait cette idée, en fait, aux moines bouddhistes. Le Dalai Lama était très amusé par ses perspectives. Et puis moi, à l'époque, c'était pas encore... Enfin, comment dire... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est complètement dedans. Mais à ce moment-là, c'était en 2016 ou 2017, je ne me rappelle plus bien... J'avais l'impression qu'on spéculait sur des possibilités qui n'adviendraient jamais. Mais c'était clair pour ces ingénieurs que le débat, alors c'était des transhumanistes pour la plupart, donc des gens qui travaillaient sur ce qu'on appelle les technologies d'immortalité, il y avait un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'ils avaient pensé jusqu'à maintenant tout faire pour augmenter, je dirais, la durée de vie de l'humain. Et ils travaillaient sur des techniques de cryogénisation. Et moi, au début, j'avais comme intention de faire une enquête dans la Silicon Valley sur toutes ces technologies de l'immortalité. Et puis, finalement, je me suis replié vers l'Inde, mais peut-être que je raconterai pourquoi, parce que c'était plus intéressant de regarder les choses du point de vue de l'Inde que d'aller voir dans la Silicon Valley ce qui se passait. Mais l'idée de ces ingénieurs, en fait, c'était que... En fait, il fallait se tourner vers le bouddhisme et peut-être aussi vers l'hindouisme plutôt que vers le christianisme pour penser l'avenir du transhumanisme. Essentiellement parce qu'ils avaient pensé jusque-là en termes de résurrection. C'est-à-dire que leur but, c'était effectivement de tout faire pour ressusciter l'humain, si tu veux. Et en fait, ça marchait pas. Et ça marche pas. La cryogénisation, on sait pas trop. Voilà, il y avait des gens qui allaient se cryogéniser, mais qui étaient bon, des gens très riches, etc. Mais c'était pas, disons, une voie très d'avenir ou populaire qui pourrait être testée sur des millions de personnes. Et donc, ils se sont dit, mais il faut arrêter de penser comme ça. Résurrection, il vaut mieux penser transmigration. Pourquoi ? Essentiellement parce que, alors quand on voit sur Internet, on laisse des traces, des datas. Et la question, c'est qu'est-ce que ces datas transmettent de la personne après sa mort, et est-ce qu'il est possible d'avoir, je dirais, des réincarnations électroniques de soi. Et pour eux, c'était clairement une question. Alors, ça paraît curieux de se retrouver comme ça, milieu d'ingénieurs et de moines bouddhistes, vous voyez, parce que c'est pas courant, mais en fait, il faut voir à quel point, dans la Silicon Valley, il y a une espèce de présence, d'omniprésence même, d'idées théologiques et religieuses chez les gens qui s'occupent de technologie. Y compris voilà, on peut avoir des débats très sérieux sur des questions de théologie. Alors j'ai pas su quoi faire de ça au début quand j'assistais à cet événement. Et puis il y avait parmi les gens qui étaient là, il y avait plein de gens, il y avait des Indiens, il y avait des bouddhistes, mais il y avait aussi des gens du ministère du yoga en Inde. Et puis il y avait Trupti Jain, qui était cette hypnothérapeute qui mettait les gens sous hypnose pour aller dans leur vie antérieure. Et puis c'est plus tard, au moment où j'ai voulu faire un film qui s'appelait Black Hole, que j'ai approché Trupti Jain, que j'avais rencontré durant ce colloque, pour faire un film et puis pour travailler sur les questions de vie antérieure, de réincarnation.
Alors on reviendra tout à l'heure sur cette histoire des transhumanistes et de ce moment en 2017 à Dharamsala où ça permet de mélanger à la fois cette idée de transmigration numérique, de métempsychose des machines, c'est-à-dire une idée de science mélangée à des idées de religion, et que c'est un moment particulier. Tu parlais de Trupti Jain, est-ce que tu peux nous expliquer qui y allait, parce que c'est, on va dire, la figure centrale de ton livre?
Alors, c'est, à l'origine, c'est une psychiatre qui s'est convertie dans l'hypnothérapie et qui fait aujourd'hui, qui est un peu une des grandes stars de l'hypnose régressive en Inde, qui consiste à mettre les gens sous hypnose. Alors, c'est une sorte de relaxation légère et puis à leur faire faire une sorte de voyage mental à travers leur vie antérieure, pour pouvoir débloquer des problèmes de leur présent, de leur vie présente. Et cette technique, elle est devenue très populaire en Inde, surtout dans les classes moyennes urbaines, dans les 20 dernières années. Et ce qui est très curieux, c'est que la psychanalyse a mis beaucoup de temps à s'implanter en Inde. Voilà. Bon, maintenant, elle est quand même pas mal implantée. Mais l'hypnose régressive, c'est en quelques années seulement que, je dirais, elle s'est vraiment développée et popularisée. Et c'est une technique qui... alors, quand on en fait l'histoire, parce que dans le livre, j'essaie d'en faire un peu l'histoire... qui a eu un certain succès en France. au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, il y avait un expérimentateur, un chevronné qui s'appelait le colonel de Rochas, qui était un secrétaire de l'école polytechnique, et qui mettait les gens sous hypnose dans son temps libre. Il faisait des expériences comme ça. Et c'était de l'époque de Charcot, où on jouait beaucoup avec l'hypnose comme une sorte de méthode expérimentale. Et là, ils mettaient les gens sous hypnose et ils s'étaient aperçus que quand on leur disait, on les faisait régresser, on leur disait « là, vous avez 20 ans, là, vous avez 15 ans, là, vous avez 10 ans, là, vous êtes dans le ventre de votre mère », et qu'on continuait, le cerveau spontanément régressait et on se retrouvait dans le corps de quelqu'un d'autre. Et il avait essayé comme ça avec plein de gens. Et les gens sortaient de son cabinet avec, des fois 5, 10, 15 vies antérieures. Alors, lui, son problème, c'est de savoir si c'était effectivement ou non des vies antérieures. Parce qu'on était à une époque où tout le monde en France croyait à la réincarnation. Enfin, voilà. Il y a des gens qui faisaient des séances spirites. Mais par rapport aux séances spirites, où en fait... dans les séances spirites, les gens se retrouvaient dans les corps de grands hommes. Donc c'était Napoléon, Marie-Antoinette, enfin voilà. Mais dans les séances d'hypnose, là, avec le colonel de Rochas, bah, les gens se retrouvaient dans des corps totalement inconnus. Donc c'était, ça pouvait être Joséphine, couturière à, je sais pas quoi, Vaux-en-Velay en 1871, enfin voilà. Et donc lui faisait des recherches ensuite dans les cadastres pour voir si effectivement ça correspondait à une réalité, puis il n'arrivait jamais à trouver aucun indice. Ce qui fait qu'il a, il a écrit un livre qui est un très beau livre qui s'appelle Les Vies successives, qui raconte tous ces cas et où il en vient à la conclusion que bah, c'est très difficile de se prononcer, de savoir si c'est des vies antérieures ou pas. Il penche plutôt pour l'idée que c'est ce qu'il appelle des romans subliminaux, donc des récits voilà, inventés, mais on ne sait pas trop d'où ça vient et on ne sait pas quel effet ça fait. Il n'a pas vraiment d'idée sur les vertus thérapeutiques de l'exercice. Et ensuite, bon, la psychanalyse se développe, l'hypnose est un peu rejetée aux marges des sciences psychiques avec Freud. Et puis elle revient, alors plus à partir des années 60, 70 aux États-Unis, en Europe et en Inde, elle se développe à partir des années 80, 90. Alors, en Inde, quand elle se développe, cette méthode, c'est très curieux parce que vous avez en Inde des méthodes, notamment de yoga, qui visent à voyager dans ses vies antérieures. Et puis, vous avez des vraies, alors pour le coup, traditions expérimentales qui visent à pratiquer des voyages mentaux, quoi, enfin, par la visualisation, etc. Mais il y a une sorte de... les deux courants ne se rencontrent pas tout de suite. Et puis c'est petit à petit que voilà, il y a des gens qui essayent de faire la symbiose et puis d'inventer une hypnose régressive à l'indienne.
Il y a aussi une autre personne qui a été importante dans ses travaux, c'est Jan Stevenson. Est-ce que tu peux nous parler de la différence entre, on va dire, la manière dont le colonel de Rochas a défriché le terrain et les recherches qui paraissaient peut-être plus scientifiques, en tout cas plus rationnelles, de Jan Stevenson?
Alors, Jan Stevenson, c'était un chercheur, un psychiatre canadien, qui est mort aujourd'hui, mais qui, toute sa vie, a fait des recherches sur les cas d'enfants réincarnés dans le monde. Et chaque fois qu'il y avait des cas d'enfants réincarnés, ce qu'on appelle les enfants réincarnés, je vais expliquer ce que c'est, mais il y allait. Et donc il y avait des cas un peu partout, alors en Inde, mais aussi beaucoup en Thaïlande, même en Afrique, ou chez les Druzes, au Liban, en Turquie, voilà. Et alors les cas d'enfants réincarnés, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est souvent des enfants qui ont des espèces de réminiscences entre 4 et 7 ans, qui tout à coup se remémorent des choses qui n'ont rien à voir avec leur vie présente et qui peuvent être souvent des choses un peu traumatisantes. Mais tout à coup, ils sont capables de dire des choses en détail sur des événements qu'ils auraient vécu. Et il y a eu comme ça beaucoup, enfin un certain nombre de cas. Et alors quand en Inde ça arrive, parce que ça arrive que des enfants aient ce genre de réminiscence extraordinaire, quoi, enfin non ordinaire plutôt, généralement les parents font tout pour étouffer la chose, parce que c'est pas très bien de se souvenir de ses vies antérieures, curieusement, en Inde où tout le monde est plutôt favorable à cette idée, mais le fait qu'on s'en souvienne comme ça, c'est voilà, on essaye plutôt d'étouffer la chose. Mais alors, généralement, ça fait toujours le buzz. Enfin, il y a toute une histoire, il y a toute une enquête dans les villages, voilà. Mais c'est disons très difficile d'avérer, si effectivement ça correspond à des vies antérieures ou pas. Donc il y a généralement tout un protocole d'enquête qui va se mettre en place. Et Stevenson a beaucoup fait pour, formaliser le protocole d'enquête avec des questionnaires et ça. Donc il allait voir les témoins, les gens avec qui la personne avait été en contact. Et puis surtout, parce que dans ces histoires d'enfants réincarnés, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est... nos vies antérieures, c'est généralement des vies qui n'ont rien à voir avec la nôtre. Par exemple, vous êtes hindou, mais en fait, dans votre vie antérieure, vous étiez un petit musulman, ou vous étiez brahmane, mais vous êtes brahmane, mais en fait, dans une vie antérieure, vous étiez de basse caste, quoi. C'est souvent des histoires comme ça. Donc, il y a une partie un peu dérangeante. Voilà, c'est toujours une incarnation qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes, et qui est plutôt de l'ordre d'une sorte de présence alien, enfin étrangère, quoi. Et pour les familles, c'est un peu compliqué. Vous avez souvent des étrangers, enfin voilà, ça peut être des Anglais, comme pendant la colonisation, des choses comme ça. Et il y a eu des enquêtes célèbres, notamment une dans les années 20. C'était à l'époque que Gandhi avait fait mis en place tout un protocole d'enquête autour d'une femme qui s'appelait Shanti Devi et qui avait eu des souvenirs comme ça de réminiscence pour essayer de voir dans quelle mesure ça correspondait à une réalité ou pas. Et puis là, l'enquête finalement en conclut que, enfin, elle ne peut pas conclure quoi que ce soit sur la vérité. Mais Stevenson était très... Alors, voilà, il fait partie de ces gens pour qui la réincarnation, c'était une question de vérité. Et donc, il fallait essayer de prouver que la réincarnation existe, ou pas, d'ailleurs. Et puis, à la fin de toutes ses recherches, il a fini par en conclure qu'il ne pouvait rien prouver du tout. Mais il y a eu, pendant tout le XXe siècle, ce qu'on a appelé les « reincarnation studies », qui se sont développés, et dont Ian Stevenson était une grande figure, et qui cherchait à aborder les phénomènes de réincarnation, en termes de vérité, pour essayer absolument de trouver des preuves, quoi.
Alors, il est important de préciser que tu es anthropologue, et donc que tu es au sein de la discipline de l'anthropologie, et que tu es chercheur au CNRS. Ça permet de comprendre, peut-être, c'est le moment de le dire. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu n'as pas effectué cette enquête dans la Silicon Valley sur l'immortalité. Pourquoi tu l'as fait en Inde, même si c'est ton terrain de prédilection en tant qu'anthropologue. Pourquoi c'était important de questionner ce sujet-là, en tout cas, plutôt en Inde, avec une hypnotiseuse, plutôt qu'aux États-Unis, avec les transhumanistes de la Silicon Valley.
Alors, c'est ce que je raconte un peu dans le préambule, c'est que pour moi, d'une certaine façon, ce qui était en train de se passer avec les histoires de transmigration électronique, c'était presque une sorte de rapt de l'idée, indienne, enfin des conceptions indiennes de la transmigration. Et je voulais vraiment apporter la perspective qui était celle de la transmigration vue du point de vue des Indiens. Et puis, je voulais surtout montrer qu'il y avait plein de versions possibles de ces phénomènes et que c'était pas du tout, une question arrêtée, qu'on avait jamais cessé de spéculer sur ces questions depuis, le 6e siècle avant Jésus-Christ, quand le bouddhisme apparaît, quoi. Il y a déjà des controverses, et c'est un peu une des raisons pour lesquelles les bouddhistes et les brahmanes se livrent à des débats extrêmement virulents. C'est la question de savoir qu'est-ce qui se passe après la mort. Et donc, vous avez depuis le 6e siècle des controverses à ce sujet considérables. Et à l'époque médiévale, il y avait eu un concile qui avait été organisé à Lhasa par le roi du Népal. Et il avait réuni des brahmanes et des bouddhistes pour trancher la question de savoir ce qui se passait après la mort. Et il y a eu à l'époque un moine chinois qui proposait une sorte de méthode de, accélérée de méditation pour sortir du cycle des naissances, donc de ce qu'on appelle le samsara en Inde et dans le bouddhisme, quoi, qui est cette espèce de cycle de vie et de mort infini, et dont en fait il faudrait pouvoir sortir. Voilà, parce qu'on est donc pris dans des réincarnations cycliques et c'est terrible, quoi, de renaître. Mais ça, on en reparlera peut-être plus tard. Il y a une théorie derrière qui est liée aux embryons, quoi. Et donc à cette époque, ce moine chinois proposait cette méthode, ce shortcut pour sortir de la, du cycle des naissances, et ça irritait profondément les brahmanes qui considéraient qu'en fait c'était pas possible, et que pour sortir du cycle des naissances, donc pour atteindre ce qu'on appelle le moksha, la libération, il fallait se réincarner de toute façon, ou alors éventuellement une de longues ascèses. Mais c'est pas quelque chose qui pouvait s'obtenir comme ça. Et ce concile avait fini dans un quasi bain de sang. C'était un peu comme, au nom de la rose, faut imaginer au nom de la rose, voilà. Mais entre les bouddhistes et les brahmanes à l'époque médiévale. Et alors l'opposition, elle était essentiellement sur le fait que pour les hindous, il y avait, au moment de la mort, il y a une part intangible de soi qui va se réincarner quelque part, on ne sait pas trop où, etc. Et pour les bouddhistes, c'était clair qu'en fait, il n'y avait pas de soi intangible, et donc il n'y avait pas de partie, de partie comme ça, qui se, de noyau dur, si vous voulez, et qu'en fait... il n'y avait qu'un composé de principes vitaux, mais que ces principes vitaux, ils allaient se diluer, se dissoudre dans l'air, dans la terre, etc. Et qu'il y avait réincarnation, transmigration, mais qu'on ne savait pas du tout où et comment, et enfin voilà, par où ça passait, etc. Et donc les bouddhistes et les brahmanes avaient vraiment deux visions très différentes de ce qui se passait après la mort. Mais c'était, je dirais, un des grands sujets de spéculation, et ça le reste encore aujourd'hui. Et j'avais l'impression, quand j'étais à Dharamsala, au fond, que c'était la même histoire qui se continuait, avec les mêmes questions et les mêmes débats qui se posaient au VIe siècle et aujourd'hui, sauf que cette fois, il y avait des ingénieurs avec des projets de machines, de machiner tout ça, de machiner la mort, de selon leur expression, de tuer la mort. Parce que c'était ça le projet transhumaniste, et qu'avec la technologie, avec les machines, on allait peut-être justement trouver les clés de tout ça.
Alors, retournons sur Trop Petit Jane, sa pratique à elle, puisque ton livre Métavertigo est centré sur les séances qu'elle effectue avec des Indiens. Comment procède-t-elle? Peux-tu nous raconter un peu la manière dont s'effectue une séance? Pas forcément le contenu, mais en tout cas déjà l'ambiance. Comment elle procède-t-elle?
Alors, elle fait asseoir les gens sur un fauteuil. Généralement, elle leur demande d'abord pourquoi est-ce qu'ils viennent la voir. Et puis souvent, les gens viennent la voir pour des raisons très différentes, mais soit parce qu'ils ont un problème particulier, des phobies à soigner, ou alors des problèmes relationnels, ou alors un coup de déprime. Enfin voilà, les raisons pour lesquelles on va voir une hypnothérapeute sont à peu près les mêmes qu'ici, quoi. Et donc ce qu'elle fait, c'est elle invite la personne à fermer les yeux, et puis elle les relaxe de la tête aux pieds, et puis elle les emmène dans une espèce d'induction qui est lors d'un voyage où généralement ces personnes vont se retrouver à adopter un corps.
Et là, la suite, ça sera ce soir ou demain matin sur l'émission du Fictionnaire, le site internet, puisque c'est une interview qui dure 1h10 avec Emmanuel Grimaud pour son livre Métavertigo, vertige de l'humain augmenté par ses vies antérieures. Ainsi va se terminer cette émission du Fictionnaire. Bien entendu, on continue Carl, la série des musiciens français du XXe siècle avec le bien nommé, celui qu'on aime tant parce que c'est les oiseaux, ça chante. Non, ce n'est pas le fou chantant, c'est Olivier Messiaen.
Et elle la rime, dis donc. Alors oui, moi je suis moins fan. Mais voilà.
Ah bah moi sacrément fan, oui,
je sais.
C'est mon préféré.
Ah oui.
De cette bande de trois.
Ok.
Ah oui, vraiment, mais oui.
Le groupe des trois. Oui, mais ça se comprend, effectivement, il a une œuvre particulière. Moi, il y a un seul truc qui me dérange, c'est peut-être le côté un peu de christique. Et on va tomber en plein dedans avec cette pièce, L'Ascension, 4 méditations symphoniques pour orchestre. On va se concentrer sur l'Alléluia sur la trompette, Alléluia sur la cymbale. Voilà, et puis on espère que ça va faire venir Jean-Marc. Parce que
ça s'appelle vraiment Alléluia sur la cymbale.
Ouais.
Vraiment.
Alléluia.
Mais sur la cymbale.
Sur la cymbale.
Ah, merveilleux.
Tu feras attention, hein, je compte sur toi.
Très bien,
et
j'écouterai.
Voilà, la pièce, j'ai peut-être la date de création. On est dans les années 60, probablement. Bon.
T'as fait un Alléluia sur la cymbale.
Écrite en 33, dis donc.
Très bien, avant-guerre.
Ouais, ouais. Allez.
C'est l'émission du Fictionnaire. Radio Campus, Orléans, en compagnie d'Olivier Messiaen.